Alors, je vais faire une longue présentation parce qu'on travaille dans les mêmes environnements, donc on a un peu un point de vue de ce qu'est notre réalité professionnelle quotidienne, les mêmes retours et les mêmes actions. J'entre directement, je continue le sujet que nous avons développé, et notamment vis-à-vis du freeware et surtout du crowdsourcing. Une petite explication pour ce qui regarde le crowdsourcing. On parle là de externalisation, ce serait la désignation qu'on va faire, externalisation vers la multitude. Alors, ça vient, pour expliquer un peu, ça vient d'un terme qui est outsourcing, qui est utilisé dans les entreprises pour dire qu'on délègue à l'extérieur, on sous-traite à l'extérieur une ou plusieurs fonctions de l'entreprise. Et après, ça va jusqu'à l'offshore, par exemple, un autre terme et un autre thème que nous avons développé dans ce séminaire il y a quelques temps, et qui est l'externalisation des services informatiques, par exemple, vers les pays émergents comme l'Inde. Donc, maintenant, pour ce qui regarde du freeware, de la production commune du freeware, il rassemble des individus qui, et je reprends un peu les thèmes, mais on a traité d'une façon plus légère par rapport à Philippe, on a développé plutôt la partie de captation du crowdsourcing, mais je crois qu'on a une convergence, au moins un niveau un peu plus superficiel. Nous pensons qu'en rassemblant des individus qui ne se connaissent la plupart du temps que par leurs compétences, la production du freeware, pour leurs compétences techniques et leur réalisation, est probablement une des formes les plus annonciatrices des possibilités de modes de développement du commun. En effet, selon notre analyse, chacun contribue en fonction de sa propre évaluation de ses compétences. C'est très différent de notre environnement, par exemple, de travail dans les sociétés de services, par l'acceptation de ses pairs, ceux qui travaillent dans les mêmes domaines ou sur les mêmes produits. Et il n'est pas jugé par un supérieur, seul compte le résultat de sa collaboration. Maintenant, pour venir à la partie sur la captation, notamment donc plus sur les vifs du sujet du crowdsourcing, nous pensons que les acteurs du capitalisme numérique orientent leur action vers la captation de ces comportements, de ces travaux qui se passent sur les réseaux et de la vie telle que se développe dans ces environnements. L'axe principal de la reconstitution, pour nous, c'est un des axes principaux de la reconstitution du produit après ces changements qui passent à travers la perte de pouvoir du capital fixe. Ces acteurs, ces agents de la gouvernance mondiale, ils utilisent les crowdsourcing comme une axe d'externalisation du travail vers la multitude, travail qui n'est pas rétribué, bien entendu, et donc c'est un instrument puissant pour extraire du travail gratuit et de la rente. C'est, de ce point de vue, quelque chose qui me semble parallèle, semblable, dans un autre domaine, à ce qui se passe, par exemple, par le capitalisme financier, par la finance, quand elle capte d'autres aspects de la vie. On a vu tous les droits au logement des subprimes, les droits à la retraite, par exemple. Nous sommes dans les mêmes domaines. Alors, pour entrer dans les concrets, ces exemples typiques, les exemples typiques de cette captation, ils se passent, pour les concrétiser là, surtout par l'intégration entre ce qui sont les applications du web d'un côté et le reste de l'économie telle qu'existait même avant les réseaux. Alors, quelques exemples qui paraissent assez parlants. Bon, bien sûr, il y a celui de Google. Chaque clic que nous faisons dans les recherches rapporte quelque chose à Google. C'est le modèle qu'ils ont inventé qui leur a permis de devenir une des entreprises plus puissantes du monde. Mais aussi, ce que nous voyons aussi dans notre travail, sur les aspects de self-care, c'est-à-dire tout ce qui se passe, donc Il y a un exemple aussi matériel qui est celui d'IKEA, hein, qui nous demande de construire des choses. Mais dans l'immatériel, je crois que tous les grands multinationales de l'informatique qu'ils utilisent, aussi comme les opérateurs télécoms. Nous sommes, et ça c'est, on entre dans la définition de ce qu'on avait dit, le web 2.0, dans une phase dans laquelle les entreprises lâchent sur les marchés des prototypes, ce qu'on appelle la perpetual beta, ou l'usager qui ne sont pas finis, qui ne sont pas complètement testés, où l'usager est appelé à se débrouiller par lui-même, chercher les causes des pannes, chercher les virus, faire des tests, appeler des centres d'appel qui sont payants et qui souvent renvoient sur des robots et qui ne sont pas capables de répondre. Et donc là, c'est aussi de l'abstraction du valeur et du travail de la multitude. Même phénomène, tout le monde le connaît désormais, sur les low cost, en général, sur ce qu'on appelle e-commerce, on verra sur la partie mobile aussi, il y a e-commerce, et les low cost, phénomène des low cost qui commence, que tout le monde connaît, maintenant, pratiquement, on ne peut plus prendre un avion sans faire le travail soi-même, sans payer d'une façon anticipée. L'e-commerce, donc tout ce qu'on achète de plus en plus sur un réseau dans lequel permet aux fournisseurs d'écouler la marchandise, parfois en ne l'ayant même pas, hein, donc on provisionne en fonction de ce qui sont les demandes et on transfère vers les clients toutes les tâches administratives de la vente. L'exemple peut-être mineur des déclarations des impôts où c'est évident, on a dans certaines conditions une rétribution si on saisit sa déclaration sur le net. Et finalement, la récupération, je dirais que c'est peut-être les points plus importants, la récupération du freeware par les capitales numériques. Nous sommes, je pense, avec un très bien placé pour voir que les sociétés de services informatiques sont très heureuses d'utiliser du freeware, de l'open source. Ça leur permet de vendre beaucoup plus de services vu que les clients, ils auront moins à payer d'un point de vue des licences. Donc, c'est une récupération d'une externalité quelque part. Maintenant, à part l'exemple de Wikipédia, on ne va pas y revenir, tout le monde le cite et c'est un exemple très heureux. Il y a beaucoup d'exemples aussi des services qui sont ambigus dans le sens de la ligne de démarcation entre la captation et ce qu'on peut obtenir. Ce que la multitude obtient est un peu plus difficile à définir nettement et les implications sont denses. Nous avons choisi de citer deux exemples, celui de Skype, qui d'ailleurs c'est en pleine actualité parce qu'il vient d'être racheté pour quelque chose comme 8 milliards de dollars par Microsoft, ou qui indéniablement a permis de diminuer les coûts de communication sur les téléphonies fixes, voire les porter à zéro dans certaines conditions. Et l'autre, mais en même temps, on ne sait pas ce qui se passe dans la boîte noire de Skype, ou le cas d'eBay, ou les côtés clairs et obscurs aussi, sans entrer dans les détails, ces mélanges. Et finalement aussi, les aspects des réseaux sociaux qui ont entré, il vient de dire les poids qu'ils ont eu par rapport au mouvement aujourd'hui, mais où aussi il y a des dangers, des risques, et plus que des risques, des certitudes de fouilles sur les informations qui y passent. Bon, effectivement, il y a d'autres aspects, juste pour terminer, par exemple, cette production du crowdsourcing permet aussi à la multitude de contrôler, par exemple, l'environnement. Il y a des exemples comme celui de l'expérimentation de la montre verte dans laquelle chacun il peut mesurer la qualité de l'air, ou un autre exemple où on peut collecter les images de pollinisation. Mais c'est vrai que, de l'autre côté, ces outils peuvent être aussi aux mains du biopouvoir. Maintenant, moi, je voudrais entrer un peu, pour vous ceux qui me regardent, dans les vifs du sujet, parce que c'est ce que je, sur lequel je passe le plus de temps, et d'un point de vue de mon intérêt, et d'un point de vue de mon travail, qui est autour, et que c'est un peu une prospection vers l'avenir de l'Internet mobile. L'émergence, quelque part, de l'Internet mobile, pour parler de l'Internet mobile, je dois partir forcément par les téléphones mobiles et par ces phénomènes. Pour revenir toujours à nos mouvements, déjà en 2009, je pense que c'était la première fois où massivement nous avons eu récupéré des informations sur ce qui s'est passé dans un pays cloisonné quelque part, des scènes de violence grâce aux téléphones mobiles, et les téléphones mobiles ont permis une certaine coordination sur le terrain. Alors pour cadrer les sujets, juste deux ou trois chiffres. Alors, les téléphones mobiles aujourd'hui, presque 80% de la population humaine, donc 5, ça c'est fin 2010, plus de 5 milliards d'humains, ils ont un téléphone mobile connecté. Et 2 milliards de téléphones mobiles vont être vendus en 2011. C'est pour comparer cela avec d'autres révolutions de la technologie de l'information et de la communication. Pour dire que le PC qu'il a 30 ans de vie aujourd'hui, ben un PC connecté, il y en a un peu plus de 1 milliard dans le monde. Et les téléphones fixes, qui alors lui, il a un siècle, il y en a 1,2 milliard dans le monde. C'est-à-dire que quelque part, cette révolution de la technologie cellulaire, de téléphone cellulaire, est celle qui s'est diffusée le plus rapidement et d'une façon relativement le plus uniformément dans le monde. À différence de, par exemple, de révolution industrielle ou des médias comme l'automobile ou la télévision, cette expansion a été un peu partout, même dans les pays, je dis pauvres ou en voie de développement, où elle a permis un saut de génération. Je rappelle très bien d'avoir vécu dans des pays émergents dans lesquels la ligne de téléphonie fixe, elle était héritée de père à fils tellement elle était rare. Et aujourd'hui, un téléphone mobile est, on l'a vu, pratiquement dans les mains de tout le monde aussi dans ces pays. Alors, à partir de ce socle de diffusion, nous assistons, et ça c'est un peu la prospection, à la naissance d'un nouveau paradigme qui est celui de l'Internet mobile, et on sait déjà que ça va dépasser celui de l'Internet fixe dans l'année prochaine ou dans les deux prochaines années, dans certains pays en voie de développement, il a déjà dépassé. Et l'usage de l'Internet mobile s'est fait par des dispositifs qui sont technologiques et fonctionnels, qui ont des caractéristiques qui vont bien au-delà du vieux PC qui nous semble aujourd'hui parfois lent, lourd et avec doté d'une interface en machine limitée et vieillissant. Il s'agit donc de smartphones, des tablettes, d'autres objets terminaux intelligents qui vont sortir sur les marchés et qui sont héritiers tant des ordinateurs dont ils ont récupéré les systèmes d'exploitation, les cœurs. Il n'est pas un hasard que autant pour Apple, pour l'iPhone que pour Android, qui est l'autre grand système dominant aujourd'hui, ce sont des dérivés des Linux dont Philippe nous parlait tout à l'heure, un des grands projets du logiciel libre.
Pour Apple, c'est BSD. Un autre système d'exploitation, mais qui n'était pas protégé contre la réappropriation.
Berkeley.
Restait propriétaire.
Berkeley. Des ordinateurs, ils ont hérité ça, les smartphones et autres tablettes, des téléphones mobiles, ils ont hérité surtout cette capacité à être always connected, comme on a dit, toujours connecté sur des réseaux toujours plus rapides, ou réseaux locaux ou réseaux globaux, et aussi mobiles, nous les avons sur notre corps. Et ça me paraît le point important. Le point important parce que dans la fusion de ces technologies, il est en train de naître quelque chose qui est différent et qui dépasse la simple addiction de deux fonctionnalités qu'on avait avec les ordinateurs et les téléphones et les capacités existantes. Donc c'est surtout cette capacité d'interagir qu'ils ont ces appareils aujourd'hui sont encore chères, mais vont se diffuser progressivement, hein, comme on a vu sur ce type de technologie, d'interagir avec nous-mêmes, nos portails sensoriels, notre corps. Il y a de la miniaturisation des équipements périphériques, ils sont tactiles, ils font de la reproduction du son, de la visualisation, et prochainement aussi en 3D, de la géolocalisation, de la reconnaissance des formes. Et donc, il y a une variété infinie d'applications qui sont en train d'être développées là-dessus, sont en train d'être développées dans ces endroits spécifiques qu'on appelle les stores, à partir de l'App Store, qui est bien très imparfait, je suis d'accord avec Philippe, comme il l'a écrit, mais même, au même temps, sont aussi, à mon avis, un droit de distribution de la production, comme des productions d'incitation et des distributions de la production commune. Il y a plein d'applications gratuites et c'est un nouveau paradigme aussi de comment on distribue les applications. Donc, ces applications qui intègrent ces périphériques sensoriels peuvent interagir avec l'usager à chaque instant de son quotidien, de sa vie, tant en mélangeant. Et là, on entre dans un sujet un peu plus politique, la vie et le travail. Ils sont capables, en effet, de nous situer et de nous faire interagir avec les contextes métropolitains, donc l'histoire de la ville, par exemple, de la ville ubiquitaire, contexte métropolitain qu'on a dit ici, c'est l'usine de temps actuel. Donc c'est un outil de l'usine de temps actuel quelque part. Donc pour cette raison, je appelais, et donc ça se combine aussi bien entendu avec les réseaux sociaux, et pour cette raison, moi j'ai appelé ces nouveaux contextes comme les contextes du bio-hypermédia, parce que c'est à côté de notre, c'est interagi avec notre bios, notre vie. Maintenant, cette diffusion des biopermédias permet aussi de constituer de bases de connaissances alternatives par rapport à celles qui sont recueillies par les agences de la gouvernance mondiale. Par contre, si on veut, je coupe un peu pour chercher à respecter les temps, si on veut regarder d'un point de vue de menace, c'est aussi un objet de contrôle, cet objet. Donc un objet typique de notre ère biopolitique peut devenir aussi un élément fondamental de l'exercice du biopouvoir. C'est qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple, qui vient de l'actualité sur le fait que nos données de géolocalisation, donc tous nos déplacements peuvent être récupérés par Apple, par Google, mais aussi tous les usages. Moi, personnellement, je vois dans mon travail la rouée des agences de publicité et de marketing vers ces nouveaux canaux de communication dans lesquels il est capable de détecter et de capter des informations qui peuvent être utilisées d'une façon très fine et instantanée, vu la richesse de toute cette interaction avec notre portail sensoriel, pour chercher à nous classifier dans un score de acheteur et consommateur et nous pousser à des achats d'impulsion, à la limite, même sur les terrains. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille. D'un côté, la puissance que ces objets ils peuvent donner, notamment quand on est capable, par exemple, de conjuguer des avatars mobiles du type Anonymous, des actions qu'on fait aujourd'hui à partir de l'Internet fixe en situation de mobilité, de l'autre côté, cette capacité de contrôle. Donc, tout cela, ça préfigure effectivement des formes de lutte d'un côté et des formes de contrôle de l'autre qui vont s'entrechoquer, mais à notre avis, ils vont s'entrechoquer dans une phase qui est complètement nouvelle par rapport à ce que nous avons vécu dans les années précédentes et avant la naissance d'Internet.